Alors, je commencerai avec Polybe comme source de Montesquieu. Après, je traiterai Montesquieu et ses considérations, et finalement Montesquieu et l'esprit des lois. Comme toutes les choses humaines ont une fin, l'État dont nous parlons perdra sa liberté, il périra. Rome, Lacédémone et Carthage ont bien péri. Cette affirmation se trouve presque à la fin du fameux chapitre 6 de l'onzième livre de l'Esprit des lois, dont le titre bien connu est de la Constitution de l'Angleterre. Donc même l'État, la Constitution pris à modèle par Montesquieu, ne se sauveront point d'un destin cruel, la décadence et la disparition. Est-ce qu'on se trouve face à un pessimisme tralatis, héritage des anciens, d'Aristote et de Polybe? Est-ce que Montesquieu lui-même adhérait à l'idée de l'anacyclose? Ou pire, est-ce qu'il craignait que chaque constitution et donc chaque État finira dans la tyrannie sans appel, ou comme il préférait s'exprimer, dans le despotisme. Montesquieu ne cite que bien rarement le mégapolite, mais dans le dossier des considérations, on peut lire. On souhaiterait peut-être que j'en trace ici dans le détail du gouvernement de la République romaine, mais je renverrai à Polybe qui a admirablement bien expliqué quel part le consul, le Sénat, le peuple prenaient dans ce gouvernement. Donc, en renvoyant à Polybe, Montesquieu met en évidence seulement les aspects selon lui fondamentaux, c'est-à-dire les aspects de la constitution mixte. En 2006 est apparu un article de Marie-Rose Guelfucci, Polybe et Montesquieu, aspects d'une réflexion sur le pouvoir. En se basant sur Polybe 6,57, l'auteur s'est dit convaincu que Montesquieu ait transposé l'anacyclose polybienne de Rome aux États futurs. Pour Montesquieu, qui a pu observer et constater le déclin des Romains, la décadence de chaque État, de chaque État aurait été inéluctable. Comme dans les modèles consultés par Aristote, aussi la République romaine, transformée en démocratie radicale, serait disparue en raison du gouvernement ochlocratique, parce que le peuple n'aurait plus suivi les vertus civiques et maintenu les anciennes règles. Face à la précarité et la fragilité des équilibres politiques, Montesquieu, à la suite des études sur la décadence romaine, aurait élevé ce mécanisme à doctrine universelle. On regardera un petit moment ce qui nous dit Polybe. C'est livre sixième de ses histoires au chapitre 57. Mais tout périt, tout sujet au changement. Il n'est pas besoin de le prouver. L'enchaînement nécessaire des causes naturelles en est une preuve incontestable. Or, toute espèce de gouvernement périt de deux manières, dont l'une vient du dehors, l'autre du dedans. On ne peut sûrement juger quelle sera la première, mais l'autre est certaine et déterminée. Nous avons déjà dit quelles étaient la première et la seconde sorte du gouvernement, et comment elles se changeaient l'une en l'autre, en sorte que sur cette manière qui pourrait joindre les commencements avec la fin, on pourrait aussi prédire ce qui arriverait à la suite. Au moins, selon moi, rien n'est plus clair car lorsque un État, après être heureusement délivré de plusieurs grands périls, est parvenu à ce degré de farce de puissance où rien ne lui est disputé, le peuple ne peut jouir longtemps de ce bonheur, le luxe et le plaisir corrompent les mœurs, une ambition démesurée s'emporte des esprits, on recherche avec trop d'avidité les dignités et la conduite des affaires. Et finalement, ça, c'est l'ochlocratie. C'est effectivement la présentation de la dernière phase du cycle quand un régime démocratique s'évolue vers l'ochlocratie. Bien sûr, pour ceux comme nous qui connaissons l'histoire suivante qui devrait conduire la République romaine, appréciée, même admirée et admirablement décrite par Polybe, à sa ruine, les mots que je viens de vous lire pourraient sembler prophétiques. Mais à mon avis, ils ne sont pas adressés au destin des Romains. Il apparaît évident que tout le discours polybien sur la constitution mixte a eu comme but de montrer que la République romaine n'était point un État démocratique selon les définitions des philosophes et des hommes d'État grecs. Après avoir exposé les pouvoirs du peuple, du Sénat et des magistrats, Polybe constate « Les trois sortes de gouvernement dont je parlais composaient la République romaine. Et tous trois étaient tellement balancés l'une par l'autre que personne, même parmi les Romains, ne pouvait assurer, sans crainte de se tromper, si le gouvernement y était aristocratique, démocratique ou monarchique. Chaque corps de l'État peut donc aussi nuire ou être utile à l'autre. Et de là arrive qu'agissant tous de concert, ils sont inébranlables. » Et c'était ça qui a donné à la République romaine un avantage infini sur tous les autres. Alors, je ne crois pas que Polybe a voulu, disons, mettre en évidence qu'aussi la République romaine aura la même fin. Je pense bien que Polybe, en présentant la constitution mixte, a nié le destin inéluctable de l'anacyclose dans le cas de Rome. Tournons donc notre attention à Montesquieu, lequel, à différence de Polybe, savait bien que la République romaine a dû disparaître et périr. Je voudrais d'abord analyser les considérations terminées en 1734, publiées définitivement en 1748, pour ensuite me concentrer sur l'esprit des lois. Un État est en pleine décadence, selon Montesquieu, parce que corrompu. Montesquieu reconnut dans le partage égal des terres une des raisons qui firent sortir Rome de son abaissement. Les partages inégaux, par contre, sont signes de corruption. Grâce à une magistrature particulière, les censeurs, pendant des siècles, les mœurs furent conservées chez les Romains. Et moi, en citant Montesquieu, et de plus, comme la force de la République consistait dans la discipline, l'austérité et l'observation constante de certaines coutumes, il corrigeait les abus que la loi n'avait pas prévus. Mais pas seulement le rôle bénéfique des censeurs, mais la Constitution elle-même, selon Montesquieu, a empêché pendant longtemps la décadence. Je cite Montesquieu. « Le gouvernement de Rome fut admirable en ce que, depuis sa naissance, sa Constitution se trouve telle, soit par l'esprit du peuple, la force du Sénat ou l'autorité de certains magistrats, que tout abus du pouvoir y put toujours être corrigé. Une telle constitution, donc, avait été pendant des siècles la garantie de la liberté, concept très cher à Montesquieu, selon lequel seulement les États libres, face aux États despotiques, peuvent être considérées comme positives. C'est l'idée de l'autocorrection due au système constitutionnel lui-même. Ce sont les lois qui ont le pouvoir et la force d'arrêter les abus et d'empêcher que le procès de corruption puisse se mettre en marche en toute tranquillité. Un gouvernement qui a à sa disposition des mécanismes de contrôle peut être appelé libre. Encore Montesquieu, un gouvernement libre, c'est-à-dire toujours agité, ne saurait se maintenir s'il n'est par ses propres lois capable de correction. Tandis que la décadence des mœurs peut être retardée par des mesures coercitives, par des censeurs, d'autres principes qu'on pourrait définir comme des lois naturelles ont une influence inéluctable sur la vie des États. Encore Montesquieu, ce qui fait que les États libres durent moins que les autres, c'est que les malheurs et les succès qui leur arrivent leur font presque toujours perdre la liberté. Dans le cas de la République romaine, c'était son énorme succès basé sur la force morale et militaire. Mais l'expansion radicale dans toute la Méditerranée conduit à la primauté des soldats sur les institutions civiles à partir de Gaius Marius. Les soldats commencèrent donc à ne reconnaître que leur général, à fonder sur lui toutes leurs espérances, c'est Montesquieu. La conséquence, selon Montesquieu, était inéluctable. Mais quand le peuple put donner à ses favoris une formidable autorité au dehors, toute la sagesse du Sénat devint inutile et la République fut perdue. Les lois de Rome avaient sagement divisé la puissance publique en un grand nombre de magistratures qui se soutenaient, s'arrêtaient et se tempéraient l'une l'autre, et comme elles n'avaient toutes qu'un pouvoir borné. Autre cause, selon Montesquieu, de la ruine était avoir accordé la citoyenneté romaine à tout le monde. Montesquieu, Rome ne fut plus cette ville dont le peuple n'avait eu qu'un même esprit, un même amour pour la liberté, une haine pour la tyrannie. Et comme on était citoyen que par une espèce de fiction. On n'avait plus les mêmes dieux, les mêmes temples, les mêmes sépultures. On ne vit plus Rome de mêmes yeux, on n'eut plus le même amour pour la patrie et les sentiments romains se furent perdus. Je continue. Alors, je passe donc à l'esprit des lois, écrit au moins partie contemporainement aux considérations. Les raisonnements beaucoup plus subtils et théoriques dépendent par contre souvent des expériences acquises grâce aux recherches dans le champ de l'histoire romaine. Est-ce que donc le destin des États doit être inéluctable quant à leur déclin et à leur fin? Est-ce que surtout les États libres ne peuvent point empêcher leur décadence? Est-ce que Montesquieu, partant de la fin de la République romaine, voulait élever l'inévitabilité de cette fin à règle universelle? Ou est-ce que plutôt que Montesquieu voulait nous préparer au risque afin que les États modernes libres puissent survivre et éviter donc le destin des Romains? Connaître les risques, les périls, pour ne pas périr. Pour vous rappeler, Montesquieu opposa les gouvernements libres et modérés à ceux qu'il définissait despotiques. Sans souligner des préférences personnelles, et une république et une monarchie peuvent être considérées comme libres. La présupposition fondamentale est également la différence majeure entre les gouvernements despotiques et libres et la distribution des pouvoirs et leur balance ou équilibre. Il est sûr que le déséquilibre est une menace constante pour les États libres. Guillaume Barrera a soutenu avec raison que Montesquieu a bien compris la précarité des régimes modérés et des risques qu'une constitution de ce genre-ci aura sans cesse à conjurer. Donc les risques qui conduisent au déséquilibre, qui peuvent mettre les États hors balance, autre terme très cher à Montesquieu. Dans toutes les formes de despotisme, l'autorité ne peut être balancée. Livre 5, 16. Déjà dans les lettres persanes, 99, il avait averti qu'un État peut dégénérer parce que l'équilibre est difficile à tenir. L'équilibre concerne les pouvoirs décrits, surtout dans le célèbre chapitre dédié apparemment à la Constitution de l'Angleterre, ou mieux, où on trouve à la base l'État anglais comme exemple d'un État libre, mais toujours imparfait. En outre, mêlé au discours sur l'Angleterre, on y trouve maintes de références encore à Rome. En tout cas, à Rome comme en Angleterre, et en partie aussi dans la patrie de Montesquieu, on pouvait constater la présence de trois pouvoirs devenus classiques et appelés aussi puissance législative, exécutive et de juger. L'équilibre, selon Montesquieu, dépend surtout du pouvoir réciproque d'empêcher, d'arrêter. Il distinguait bien entre la faculté de statuer et la faculté de empêcher. Montesquieu, le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque autre. Donc, on doit trouver des solutions surtout quand une puissance abuse du pouvoir. Donc ça... Mais Montesquieu, parlant des Romains, amenant des exemples, il s'est d'abord concentré sur les tribuns de la plèbe. Mais Montesquieu critique les tribuns romains en disant que leur puissance était trop grande. Elle était vicieuse en ce qu'elle n'arrêtait pas non seulement la législation, mais même l'exécution. Autre vice de la constitution romaine fut que ni le Sénat ni les magistrats avait la faculté d'empêcher, vice si grave que Montesquieu l'énumère en premier lieu comme la cause du déclin de la République romaine. En réalité, le droit d'arrêter devrait être une des raisons principales pour le fonctionnement de toutes les constitutions libres. La constitution mixte polybe fut sans doute admirée par Montesquieu, lequel y découvrit aussi la balance, idée pas polybienne, mais due à Montesquieu lui-même. Je laisse tout ça. Ni Polybe, ni les Romains distinguaient les trois puissances de Montesquieu. Ils raisonnaient selon les idées des philosophes grecs sur les éléments démocratiques, aristocratiques et monarchiques. Et alors, sauver la balance, l'équilibre, c'est le message central. Mais pour qu'un État puisse continuer, il ne faut jamais oublier que les meilleures lois ne valent rien si les hommes qui vivent sous ces lois et ont le pouvoir de les changer ou maintenir n'ont pas une connaissance des valeurs et un attachement aux principes et aux mœurs. Afin d'empêcher ces risques, il faut que l'État lui-même fasse apprendre constamment ses valeurs. C'est une question d'éducation, de formation permanente. Les termes mœurs et vertus semblent être dépassés aujourd'hui, mais dont la pensée de Montesquieu y joue un rôle essentiel. Donc, des prémices à observer. Mais est-ce que Montesquieu lui-même a osé répondre directement à la question sur l'inéluctabilité de la fin des États libres et modérés? Je crois que oui. Un citoyen anglais, William Domville, préoccupé des affirmations de Montesquieu relatives au déclin de l'Angleterre, lui a demandé des explications plus concrètes. Montesquieu lui a répondu le 4 juin 1749, pensée 1960. Qu'est-ce qu'il y a dit ? Il a rassuré son lecteur anglais en faisant la comparaison entre Rome et l'Angleterre, entre la corruption qui a amené la République romaine dans son tombeau et la corruption présente en Angleterre à son époque, qu'il a jugée très faible. Par contre, le peuple entier aimerait sa liberté et ses lois. Je dis donc que tandis que les gens médiocres, moyennes, on dirait aujourd'hui, conserveront leurs principes, il est difficile que votre constitution soit renversée. Pour finir, chers amis, dans le troisième chapitre de l'Esprit de loi, on peut lire « Un État peut changer de deux manières, ou parce que sa constitution se corrige, ou parce qu'elle se corrompt. Il a conservé ses principes, et que la constitution change, c'est qu'elle se corrige. S'il a perdu ses principes, quand la constitution vient changer, c'est qu'elle se corrompt. » Donc, pas perdre ses principes. Et ce sont exactement ceux que je viens de vous expliquer. Une moralité privée et publique, un État civil et pas militarisé, une économie interne à la base des richesses de tous, donc une société des égaux fondée sur le mérite. Changer pour corriger, pour adapter, mais jamais pour abandonner les principes fondamentaux de chaque constitution libre, la division des trois puissances et leur équilibre, leur balance basée sur le droit d'empêcher. Déjà en finissant ces considérations, Montesquieu avait souligné « Une république sage ne doit rien hasarder, hasarder qu'il expose à la bonne ou à la mauvaise fortune ». Le seul bien auquel elle doit aspirer, c'est la perpétuité de son état. Chers amis, ce sont des mots beaucoup plus optimistes, lesquels contrastent avec la décadence et le déclin inévitable. Donc, les états peuvent aspirer, sous certaines conditions, à la perpétuité ou au moins à une existence durable. Et je suis bien sûr que toute l'œuvre de Montesquieu est la meilleure preuve que la fin d'un État libre et modéré n'est pas inéluctable ni inévitable. Je vous remercie.